CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio. Saros, tu connais?
Si la pratique médicale en région désignée, éloignée ou isolée t'interpelle, tu dois absolument visiter notre nouveau site web
au saros.ca.
SARROS.ca.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi, il est approximativement midi. L'heure du dîner, l'heure aussi de la bande dessinée. Entre les salades, entre les pointes, entre les desserts, il y aura bien une place pour les frères à terre.
Ouais, on n'arrête pas de dire que c'est le jeudi, alors maintenant c'est le mercredi, en tout cas.
Les gars, est-ce que Lévi vous a achalé avec son chien ou son chat ou son affaire?
Il est un animal, Lévi. Depuis quand?
Ben, au moins 2-3 de morts sur le chest, là, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que Lévi veut un chien, mais là, il peut pas avoir des chiens, tu sais, à cause de son propriétaire et tout. Là. Ouais. Fait que là, il veut s'acheter une maison où il a le choix entre s'acheter une maison ou pas avoir de chien. Ouais. Lui, il choisit acheter un chat.
Ouais, c'est tout à fait logique tout ça. Mais Lévi, en fait, il fait ce qu'il veut, vieil Acadien, dont je ne connais pas le prénom. Et en plus de ça, on sent coquille, babillard, bouche. Ah, voilà. Alors Max, il connaît clairement pas les expressions et son script. C'est de la merde, apparemment.
On s'en tamponne pas la babèche pantoute. Un chat, un chien, c'est comme parler de poire pis de pomme.
Cette expression-là non plus, tu l'as pas tant assimilé, Max. On compare en général des pommes et des oranges.
Ta boîte, le fruitier cat lover.
Wow, 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 l'Acadien. Pourquoi tu te fâches de même, là? On est en train de parler de chats et de chiens.
Ouais, mais les chats, c'est demi, point final, bâton.
Encore une fois, Max, on dit soit point final ou final, bâton. Pas les deux.
N'importe quoi.
Ah, mais puis les chats, c'est quand même super intelligent. Je vais pas revenir sur l'histoire du mercredi ou du jeudi de tantôt, là, mais je veux dire, le chat, déjà, il sait si c'est le mercredi, le jeudi. Tu sais que moi, ma minette, là, à maison, je lui demande de pas chier dans le bain, pas ramener d'animaux morts. Elle fait tout ce que je lui demande. Elle fait même mamao quand je lui donne de la pâtée.
Voyons, Ali, là. Check, réfléchis un peu. Tu peux pas faire ça. Parler de ta blonde de même à radio, ça se fait juste pas. Des petits surnoms, là, Minette, Machat, compagnie, tu gardes ça dans la maison. Un peu de classe, OK? Chez nous,
non,
on fait pas ça.
Attends. L'Acadien, Minette, c'est vraiment sa chatte, en fait.
Tu veux dire son chou?
Bah oui, sa chatte, ouais.
Un chat, une chatte, un chien, whatever. Max, c'est quoi cette intro d'épais, là?
Oh, boy, parle-moi pas sur le fameux chat chien de même affaire, bande de fêlés. Check, ça a pas d'allure, fuck off. Moi, c'est pour entendre parler de chat à longueur de journée, chaque mon candidat.
Hey, les gars, vous trouvez pas que le vieil Acadien, depuis que Max joue au billard et qu'il se tient dans les bars, il a changé un peu?
Il y a un truc que je vous ai jamais dit, en fait. C'est que ça fait plusieurs fois déjà que j'arrive. Puis, enfin, il se cache, là, mais il est sur des formes de Dodge Ram, puis de Ford F-150. Puis il regarde combien d'affaires il peut rentrer dans le pick-up, là, des cartons de cigarettes, plein d'affaires, des...
Mais c'est vrai que c'est fou. Moi aussi, il y a une fois, j'ai vu, il a mangé un sac de crottes de fromage, en tout cas, plusieurs sacs même. Il a mangé non-stop ça toute la journée au lab, puis il checkait des compilations de Price is Right. Pour vrai, j'avais goût de pleurer, là. Ça me détruisait de voir comme ça. Là. Il arrêtait pas de crier des prix comme un estimade mental.
C'est de traîner avec Max. Hein. Traîner avec Max. Non, mais l'important, c'est que ce petit Acadien, là, il soit heureux, tu vois. Quand il joue au billard avec Max, pensez pas que pendant un moment, il oublie un peu tous ses petits malheurs. Et c'est ça qui est beau.
Hey, les gars. Oh non. J'ai reçu un texto. C'est Max. Il s'est fait arrêter. Il a volé un morceau de chorizo au dépanneur. Faudrait que quelqu'un y aille le chercher.
Ah, si, bon, le maudit demain. Bon, Pierre, parle la musique, là, m'aille chercher avec mon menu.
Will you be?
Vous êtes de retour sur ce FAK 88.3 FM, les premiers de la bande. Je ne m'entends pas, mais oui, parce que je n'ai pas mon casque. Voilà, ouais, je m'entends.
Est-ce que tu t'entends là? Moi, je t'entends.
C'est parfait.
Yes.
Salut Lévi.
Salut.
Ça va Lévi?
Ça va et toi?
Tranquille.
Tranquille. Imhotep?
Imhotep, Imhotep.
Ah, merci,
comme
merci.
Toujours.
Je commence à me sentir mal à l'aise.
Là, finalement, on s'y fait, on aime bien ce Imhotep. Hein.
C'est pas que j'aime ça, c'est que c'est une habitude acquise. Oui. C'est pas exactement la même chose.
Olivier, ça
va-tu? Ça va, ça va.
Tu t'es guéri un peu?
Je suis presque guéri. Parce que Maxime, non.
Est-ce que t'as contaminé Maxime? C'est la question qui est un peu sur toutes les lèvres ce matin à Sherbrooke. Autant les élections, on s'en fiche. Autant Maxime qui est malade. Et pourquoi ça? Ça, c'est quelque chose d'intéressant.
Ben quand même, là, je veux dire, ça nous touche beaucoup plus directement. Quand Max n'est pas là, il faut qu'on travaille au moins 33% plus.
C'est ça. Heureusement que les frères acteurs sont là pour les vraies infos. Hein.
Oui.
Et on va partir en BD. Lévi, t'as-tu...
Encore?
Oui, je suis désolé, c'est toi qui présente.
Ah, pour vrai?
T'as perdu au jeu, c'est toi qui présente, c'est comme ça.
Ah, j'ai encore perdu d'ailleurs.
Jusqu'en 2023. Allez.
Bon, ça va me prendre un petit bruit de machine.
Ah oui, c'est vrai, pour machine. Attends, j'ai une jiggle machine.
Donc, aujourd'hui, d'après ce que je vois, c'est classé par ordre de nombre de BD présentés par les présentateurs. Donc, c'est assez particulier à croire que la machine lit dans nos pensées.
Vous n'avez pas compris tout de suite, mais vous comprendrez au fur et à mesure de l'émission.
Ah oui? Ah, ben moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Les égarés de Dejima, de Nicolas Wouters et Michel Folletti. Motherfucker! De Sylvain Ricard et Guillaume
par
Martinez.
Contre, on est en onde, alors tu peux éviter les.
Ah, motherfucker.
Voilà, très bien.
C'est mieux?
C'est mieux.
D'accord. Et pour prendre les mots presque exacts de Pierre, tout un tas de BD que Pierre va présenter à l'instant.
C'est exactement ça.
Et attention, Stan n'est pas le nom de famille de Monsieur Alain. Il n'y a aucun lien. C'est Alain, Stan, c'est un mot.
Exactement. C'est... Alors là, okay. On va laisser un petit 15 secondes.
On en a déjà parlé.
Parce que j'ai pas le jingle présentement, mais voilà, comme ça je vais le rajouter. Oui, parce qu'on enregistre l'émission en différé. On est mardi aujourd'hui. Non.
Mais ça, est-ce que tu vas le garder tout ça, ce passage-là?
Oui, c'est ça.
Oui,
qui est
ok,
drôle.
C'est bon. C'est bon.
Bon. Donc moi, je vais vous présenter. Vous avez entendu avec le jingle des trucs qu'on a déjà lus et qu'on va vous représenter. Bah, j'ai quatre petites bandes dessinées que j'en ai déjà présentées. Ou dont on a déjà présenté des choses similaires.
C'est original.
Ouais, je commençais avec un manga, Space Brothers. On en a déjà parlé au moins deux fois, je pense.
Ouais.
Donc ça, c'est un truc semi-récent, parce que je suis au tome 25, je continue, je suis le seul qui arrive à continuer. Et ça vaut le coup d'aller jusqu'au tome 25, parce que Mutanamba, le héros, est enfin parti. Il a pris sa fusée après 25 tomes, et il part vers la Lune. Donc il y a 32 tomes aujourd'hui qui sont déjà sortis au Japon, 28 en français, le 25 est arrivé à la bibliothèque, donc ne lâchez rien, il va finir par me poser les pieds sur la Lune. La cosmologie du futur de Alessandro Pinocchi, on vous avait parlé du petit traité d'écologie sauvage, qui est un livre un peu à la zaï, mais sur un thème beaucoup plus politique, beaucoup plus social, alors que zaï, c'est clairement du n'importe quoi. Mais voilà, c'est assez drôle avec des dessins qui sont que des aquarelles où il n'y a aucun mouvement parce qu'ils réutilisent toujours le même dessin, c'est assez rigolo d'ailleurs.
De toute façon, un dessin, c'est rare qu'il y ait du mouvement dedans.
Ouais, mais il y a du mouvement dans Zay, on voit le gars qui fait sa roulade. Enfin,
je comprends ce que tu veux dire.
Alors que là, il n'y a clairement aucun mouvement, sauf quand il y a des petites mésanges dessinées, mais tu regardes. Là, il y en a pour une fois, je dois l'avouer.
Bon,
tu regardes.
Une mauvaise page.
T'as quatre fois les mêmes dessins pour illustrer une petite histoire, donc c'est que de l'humour un peu absurde. Si l'homme trouvait que finalement la mode des Indiens Jivaro était un petit peu à la mode, donc c'est vraiment vraiment cool, toujours aussi drôle, je pense un peu plus drôle pour les Français que pour les Québécois parce qu'il y a de la politique intérieure française là-dedans, mais vraiment je conseille, si vous avez aimé le petit traité d'écologie, je vous conseille de lire ça aussi. Oui, ça va sonner parce que ça veut dire qu'il va bientôt falloir que... J'ai encore deux petites minutes. C'est parfait, j'ai encore deux livres.
D'accord.
Bonne santé de Charles Masson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Charles Masson. On avait lu Soupe froide, l'histoire d'un sans domicile fixe qui sort d'une maison de repos. Il s'est fait servir une soupe froide et on sert ça qu'aux chiens. Et il passe toute la nuit à faire son monologue et finalement le lendemain matin, alerte au spoiler, il meurt.
Ah mais d'ailleurs la couverture est... très 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 semblables. C'est pour ça que ça me dit quelque chose.
C'est exactement la même édition, etc. Donc c'est écrit et dessiné par un médecin ORL, otorhinolaryngologiste.
Ce que lui devrait aller voir.
Exactement.
D'accord, ouais.
Sauf que lui, il travaille ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est qu'il travaille plus sur le cancer, tout ce qui est cancer de la gorge, etc. Et donc là, il va nous donner des petites histoires qui nous prouvent que les médecins chirurgiens, otorhinolaryngologistes, mais je pense bien d'autres qui travaillent avec des cas de cancer, des morts un peu horribles, etc., mériteraient d'avoir un soutien psychologique. C'est assez dur. Il y a beaucoup, beaucoup de cynisme dedans, mais on sent qu'il y a vraiment des choses très, très dures qui vivent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a 6 histoires différentes dedans, séparées par des petits chapitres juste écrits. Chambre 8, 9, chambre 10, 11, comme ça, jusqu'à la chambre 25. Et à chaque fois, ça, c'est ces petits trucs écrits. C'est le médecin qui doit faire le tour du service pour souhaiter une bonne année, une bonne santé, d'où le titre. Et donc, on voit ce qu'il dit aux gens. Pas les réponses des personnes, on voit juste ce qu'il dit lui et on doit essayer d'imaginer un petit peu ce que les personnes leur répondent et on voit tout ce qui se dit lui dans sa tête. Voilà, donc c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, mais voilà, c'est très très cynique et beaucoup d'humour noir dedans, donc pas à conseiller à tout le monde. Et finalement, alors celui-là c'est celui qui est le plus, on en a pas parlé, hein. C'est Boot Black de Michael. Vous avez lu Giant?
Oui. Bah, la couverture me fait penser encore une fois.
La couverture est exactement pareil, c'est exactement le même genre d'histoire. Ça va être en 2 tomes. Là, le premier vient de sortir. Le deuxième tome doit sortir dans 1 an ou 2. Donc, si jamais vous avez aimé Giants, c'est une autre histoire dans le New York des années 30. Des mafias, des gangsters. Là, c'est plus sur les mafias et les gangsters que sur la construction des buildings. À conseiller, c'est exactement le même type de dessin, le même genre de...
Ouais, on voit très bien, juste à feuilleter rapidement, la qualité du dessin encore là, c'est super beau.
Exactement. Voilà, moi j'en ai fini pour toutes mes BD. On va pouvoir aller écouter un petit peu d'autopromo et revenir avec un petit peu de musique. À tout de suite.
Dans son ego bientôt, dessus de tout ce qui était, sur le sens des choses, sûr d'avoir raison pourtant.
de retour à l'antenne pour les chroniques des frères acteurs sur CFAK 88.3 FM, les premiers de la bande.
Exactement.
Et il va être l'heure de...
Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, tu le sais ?
Mais non, je ne me rappelle plus.
Tu ne te rappelles pas. Alors, on vient d'écouter... Enfin, vous venez, parce que nous, on ne l'a pas écouté. On vient d'écouter les Royal Pickles, et c'était la chanson La Somnambule. Voilà. Lévi, tu l'aimes, cette chanson ?
Oui, très
parfait.
Bon choix.
Bon.
Non, bah, de toute façon, j'aime toutes les pièces qui font Royal Pickles.
Comme ça, c'était facile de faire le choix, moi.
Ouais.
Excellent. Ça va prendre une petite chronique ?
Bah, c'est ça, oui. Je pense que c'est à Maxime de présenter sa BD, là. Maxime, qu'est-ce que tu as à nous présenter ?
Bon, ben, c'est à mon tour de vous présenter une BD. Écoute, c'est malade, là. Et moi, je l'adore. C'est un génie. C'est un génie. C'est sûr que vous allez adorer.
C'est bien. Toi, tu vois toujours midi à ta porte, en fait, toi.
Je te dirais qu'il n'est pas encore midi. Puis d'où je suis, là, je ne vois pas ma porte non plus. Là.
Max, arrête de déconner, là. Et présente ta BD, s'il te plaît.
Non, mais... Ouais, moi, écoute... Moi, je suis pas une linéaire, là. Quand je vous comprends pas parler, là, moi, j'appelle le BDT, là.
Bureau des traductions, bonjour! Comment puis-je vous aider?
Ouais, ben, c'est l'autre tata de français, là. Il me dit qu'il pense qu'il est midi sur ma porte. Et je vois pas midi, je vois pas ma porte. Il est pas midi, puis ma porte est pas dans le studio. Et que je sais pas quoi faire avec ça.
Ok. Est-ce qu'il vous dit que vous voyez midi à votre porte?
Ah, c'est ça qu'il me dit depuis tantôt.
Oui, oui, d'accord. Eh bien, premièrement, une toute petite leçon historique. Autrefois, la seule bonne façon de connaître l'heure était d'employer un cadran solaire. Les maisons en campagne étaient affublées d'un tel appareil qui donnait généralement l'heure sur ou très près de la porte. Ainsi, à midi, on pouvait voir midi sur sa porte.
Mais j'ai une montre. Puis j'ai mon cellulaire qui me donne l'heure. Et on n'est pas en 1458 non plus.
Oui, 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 j'y arrive. L'expression vient du fait que les cadrans solaires sont très imprécis. Ainsi, d'une maison à l'autre, le moment relié à midi pouvait grandement varier. Donc, lorsqu'on voit midi à sa porte, c'est qu'on se fie à notre opinion uniquement pour affirmer quelque chose. Il est midi à ma porte, donc il est midi forcément partout.
Wow, wow, wow. En fait, ça s'applique pas tant à la situation.
Je ne connais pas quelle est votre situation, monsieur.
Ouais, ben moi, je dis juste que t'affirmes assez vite que tout le monde va aimer ta BD, quoi.
Bon, moi, je vais me sauver. J'ai un discours du premier ministre qui renouvelle son mandat à corriger. Beaucoup de travail en vue. Les petits pas sont prêts.
Merci, faux Maxime. Non, ce n'était pas Maxime.
Ouais, c'est l'illusion était presque parfaite,
C'est un faux Maxime qui imite très mal l'accent québécois.
Ouais, mais c'était une très belle mauvaise imitation. C'était
fait pour être mauvais.
Donc Maxime, tu n'es pas là, mais par contre, il y a encore un autre Maxime qui s'appelle Lévi qui va nous dire qui sait sur le livre que Maxime devait chroniquer.
Ouais, donc en gros, Max, il voulait chroniquer deux BD, mais il y en a juste une des deux qu'on va parler, puis l'autre, il apparaît lui-même comme un grand champion.
L'autre, c'est
fois.
Celle de Lévi-Strandheim?
Ouais.
Alors, je vais te le faire. Ouais. Parce qu'en fait, il a dit qu'il allait les chroniquer, il allait prendre le temps en fonction du poids de la BD. Du coup, pour Lévi-Strandheim, oui. C'est cool, voilà.
Ah, ok. Donc,
c'est un petit livre qui fait à peu près...
Elle se lit environ 4 minutes 46 secondes si on lit à la vitesse de Maxime. Donc, si je me fie à la comparaison de Maxime et nous deux, mettons, ça prend probablement une minute à lire.
Moi, ça m'a pris pas beaucoup de temps, effectivement. Ça fait 2 pouces par 1 pouce et ça fait à peu près même pas 1 centimètre d'épais.
Puis, ce qu'il a dit aussi, je sauve rapidement, il dit aussi très rapidement qu'on peut utiliser les fins du monde de Trondheim. On peut l'utiliser comme signet pour ne pas perdre sa page dans Rusty Brown de Chris
tout
Ware.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait
qui
vrai.
Est justement son autre BD dont il voulait parler. Rusty Brown de Chris Ware, pour ceux qui se rappellent, on a déjà parlé de Jimmy Corrigan de Smartest Kid on Earth, de lui. Et nos pensées sur cette BD-là, justement, c'était que c'était très volumineux. Long à lire et difficile à lire étant donné sa division des cases qui est très très particulière, parfois en spirale, parfois d'une assez drôle de façon, ce qui fait que c'était très intéressant justement. C'est un effort intellectuel mais très agréable à faire en même temps.
Et c'est Police 4.
Oui, exactement. Ben ça varie beaucoup. Il y a quand même beaucoup de variabilité là-dedans, mais c'est vrai que parfois c'était écrit très très petit. Donc, là, en gros, c'est encore le même auteur qui utilise un peu le même style de BD. Je l'ai feuilleté rapidement aussi pour voir de quoi ça a l'air. C'était vraiment cool, justement. J'ai bien aimé ça. Puis, lui, ce qu'il dit, c'est que t'as l'enchevêtrement de 6 personnes durant une journée dans cette BD-là. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que ça doit être encore plus difficile à suivre, mais peut-être que l'histoire est plus claire que dans l'autre BD de lui qu'on a lu. Moi, en tout cas, c'est sûr qu'aussitôt que Max a fini de lire ça, je vais vouloir le lire en détail.
C'est à peu près tout ce qu'il avait dit?
Je peux lire... Il y a encore d'autres choses qu'il a écrit. Attends un peu. Au fond, je peux lire textuellement ce que Max a écrit.
Non, mais...
Allez, je me lance. Ce sera pas long. J'ai vraiment de la difficulté à décrire cet ovni-là, parce que j'ai l'impression de consommer un médium que je n'avais jamais vu avant. Chris Ware aime bien nous déstabiliser avec des contrastes dans la taille du texte, l'ordre des tuiles, la disposition, la taille des images, bref, avec tout. Pour bien résumer sa BD, je vais utiliser sa propre description. Il dit lui-même que c'est « a fully interactive, full-color articulation of the time-space interrelationship of six complete consciousness on a single Midwestern American day and the tiny piece of human grit about which the involuntary orbit.
» Merde, gros, c'est tellement ça!
Ouais.
C'est long!
Donc,
j'en ai des frissons, là.
Le personnage principal, Rusty Brown, est un homme fondamentalement triste et seul. Ça nous rappelle quelqu'un.
Il a à voir avec le titre, à ton avis, ou pas?
Peut-être, oui. Il y a peut-être un lien subtil.
Très bien.
Un gars qui a fait rire de lui parce qu'il lisait des comic books à l'école. C'est comme nous. C'est un vieux garçon qui n'a jamais été aimé. Vraiment comme nous. Il mène une vie de monotone dépressive. Bref, des thématiques semblables à ce qui était proposé dans Jimmy Corrigan de Chris Ware. La force de Ware est qu'il réussit à nous faire vivre et sentir les rêves, les idées et les émotions de chaque personnage, non pas simplement par son script, mais en partie grâce à son support graphique. J'ai d'ailleurs lu quelque part qu'il choisissait d'utiliser de si petites tuiles puisque ça aide à mettre à l'avant la volatilité des idées et des rêves, mais surtout la rapidité à laquelle notre cerveau traite certains souvenirs. C'est d'une efficacité. M'en viens juste pas. J'espère qu'il va réussir à terminer son projet et sortir un deuxième volume d'ici quelques années. Je termine en disant que Chris Ware s'amuse à mettre du contenu partout où on n'en trouve pas sur une BD standard. Ça m'a d'ailleurs pris environ 25 minutes pour lire la couverture qui se plie, déplie dans tous les sens. Environ 5 minutes pour lire la page avec les informations de l'éditeur et j'en suis à environ 6 heures de lecture et je n'ai toujours pas terminé. C'est généreux, c'est différent, c'est du génie, c'est déprimant. Rusty Brown de Chris Ware.
Faut pas lâcher. C'est ça le truc.
Ouais, c'est ça. Ça prend la motivation, mais d'après ce qu'il dit, ça vaut la peine.
Par contre, je suis désolé pour ceux qui sont pas très courageux. Je pense qu'il n'existe qu'en version originale. Je suis pas sûr qu'il y ait une traduction de ça.
Je crois aussi.
Parce que Jimmy Corrigan, on n'a jamais trouvé. Voilà. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix bande dessinée, apparemment.
Ah ouais, mais vous aurez compris, donc les conseils de Maxime pour cette semaine, c'était Les Fins du Monde de Lewis Trondheim.
Exactement.
Et Rusty Brown
de Chris Ware.
Mm-hmm.
Sur ce, je crois qu'on n'a rien d'autre à dire. Alors on va partir en musique.
Allez.
On va partir en musique. Et là, pour suivre un petit peu les idées de Maxime, on va partir dans une autre dimension, mes amis. Le genre d'endroit où je vous emmène, on y va rarement, mais ça vaut vraiment le détour.
Je me demande.
D'ailleurs, je ne sais pas vraiment où on est. Est-ce du rock? Est-ce du métal? J'ai cru entendre quelques rythmes un petit peu syncopés pourtant. Quelques attaques de guitare avec un soupçon de funk. Bref, Polyphia s'amuse à nous perdre et je dois avouer que j'aime beaucoup ça, me perdre de la sorte. Allez, on écoute leur dernier titre en date, GOAT ou G-O-A-T. Et on est de retour sur CFAK 88.3 FM, les premiers de la bande. Après avoir écouté, j'ai dit pause. Voilà, c'est bon. Après avoir écouté Polyphia, groupe de métal progressif, rock progressif, je sais pas. J'ai vraiment, il y a trop de définitions, c'est insupportable.
Mais c'est vraiment cool, j'ai vraiment aimé ça en tout cas.
Stimulant. Mais je vous conseille tout leur dernier album qui s'appelle New Devils.
New
Levels, des nouveaux niveaux.
Ouais.
New Devils, des nouveaux démons.
D'accord.
Voilà, c'est traduction, bureau des traductions. Voilà.
Merci, bien essayé.
Ben là, normalement, on met un jiggle pour le pointer.
Le point technique de Robert K. Le spécialiste de la bande dessinée, c'est Robert.
Eh, c'est de pointer.
Et c'est l'arrivée de Robert.
Salut,
qui
Robert.
Va vous parler aujourd'hui d'un point technique concernant la bande dessinée.
Super.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du cadrage.
Du quoi ?
Du cadrage.
D'accord, très bien.
Le cadrage, alors, c'est quelque chose qu'on connaît en photo ou en cinéma.
Un cadrage, c'est quand on devient tout fou, c'est ça ?
Non, le cadrage. D'ailleurs, en cinéma, photo, bah, tu as ton objectif, tu cadres, tu mets les choses dans le cadre.
Ah.
Alors, c'est vrai que dans la bande dessinée, c'est déjà très important parce que faire un cadre, donner un cadre, bah, c'est déjà faire un choix. Orienter le lecteur dans une direction ou autre. Alors souvent, bah, on a plein de trucs. On a évidemment la contre-plongée, tout ça. Il y a le plan général, le plan moyen, le plan rapproché, le gros plan ou le très gros plan. Alors attention, je dis attention sur le gros plan ou le très gros plan. Dans le contexte du vin, ce n'est pas pareil. Le gros plan, G-R-O-S-P-L-A-N-T, et pas gros plan, G-R-O-S-P-L-A-N, c'est du vin. C'est un vin blanc AOC. AOC, appellation d'origine contrôlée. Et c'est un vin blanc AOC qui est produit surtout dans les pays de la Loire en France. Alors, si tu dis, mais en faisant pas attention que tu parles peut-être de vin au lieu de la BD, si tu dis un très gros plan, ça peut vouloir dire, mettons, un Magnum ou un Jéroboam.
C'est vrai.
Alors, au fond,
un Jéroboam.
Juste être sûr que je comprends bien. Au fond, Robert, là, c'est Mathieu Bob Côté, mais qui parle bizarre.
C'est exactement ça.
Ok, c'est ça. Je voulais juste être vraiment sûr.
Moi, je suis là surtout pour. Je suis là pour le technique.
Par rapport au gros plan, est-ce que ça peut aussi faire référence à ton voisin qui fait pousser de la weed dans son placard ?
Absolument pas. Il faut faire très attention. Je suis là pour clarifier les choses.
Très bien.
En cadrage, on peut parler de gros plan ou de très gros plan. Mais un très gros plan, P-L-A-N-K, ça peut vouloir dire, mettons, un Magnum ou un Jéroboam. Un Jéroboam, J-E-R-O-B-O-A-M. Oui. C'est une bouteille contenant entre 3 et 5 litres. Alors forcément, si tu compares à une bouteille normale, ça fait quand même un très gros plan.
Ça fait 2
mettons 3 et 5 litres. Alors c'est sûr qu'il y a aussi le Nabucodonosor. Le Nabucodonosor, c'est une contenance de 15 litres. Mais là, ça fait un très très gros plan. Donc là, tu es hors sujet.
Ah, oui.
Parce qu'on parlait du gros plan ou du très gros plan. Alors aussi, il faut faire attention parce qu'il y a aussi le car. Qu'on trouve souvent, mettons, tu prends l'avion, on te sert un repas, on te dit vin rouge ou vin blanc. Attention, on te sert un quart. Donc là, c'est un petit gros plan.
Oui.
Donc là, pareil, c'est hors sujet. Faire très attention au niveau de
d'accord,
la technique,
d'accord.
J'insiste. Enfin, je m'égare. Revenons au cadrage. Bon, le cadrage, on peut dire qu'il permet de positionner le lecteur dans l'univers qui est construit par l'artiste. Mais en fait, comme je manque de temps parce que je n'ai fait que parler finalement du vin et des bouteilles au lieu de parler du cadrage en bande dessinée, eh bien, je vous en parlerai la prochaine fois. Bonne journée.
Merci Robert pour ces chroniques gustatives.
Ben oui.
Absolument.
BD dégustation.
Bon, ben écoute, on n'a pas le droit d'un studio, mais ça donne le goût de boire une petite bouteille de vin. Merci.
On va partir en BD.
On part en BD.
Qu'est-ce qu'on va lire?
On va lire Mother Cure.
Très bien, voilà, c'est ça qu'on veut.
T'es fier de moi, hein? Pour ceux qui n'ont pas compris le c'était fuck.
Je mettrai un truc par-dessus.
Ah, pour vrai? Est-ce que, mais là, je pourrais te donner plein de jobs, puis juste faire motherfucker, puis genre
tous les
le.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ce
serait drôle quand même, puis il faudrait que t'en mettes 2-3 pas à bonne place.
Ouais.
Ok, ça pourrait être bon. Donc, comme je vous disais.
Faire de tout ça.
Motherfucker, tome 1, ben, première partie, de Sylvain Ricard et Guillaume Martinez. Il y a aussi Motherfucker, tome 2, des mêmes personnes.
C'est la suite, non?
Oui, c'est la suite. Ouais. Motherfucker, partie 2, et la suite de Motherfucker, partie 1.
Très bien. Ça se tient.
Et en gros, cette histoire-là, c'est durant la... Ah, mon Dieu! C'est pendant l'époque des... Excusez, c'est juste que Pierre m'a montré le temps qui restait et j'ai réalisé que j'ai beaucoup de temps. Je suis vraiment là. Je vais parler plus lentement de Motherfucker.
J'ai même oublié une minute quand je te l'ai dit.
Ouais. Et donc, c'est ça. Ça se passe à l'époque du Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ku Klux Klan, hey, j'ai vraiment de la misère à prononcer ça, c'est drôle.
Ouais, le KKK, ça suffit.
Donc, ça, c'est un regroupement de suprémacistes blancs. Donc, eux, ils étaient totalement américains, évidemment. Eux, ils étaient totalement contre l'intégration des Noirs.
Trois premières lettres du mot, c'était suffisant.
Clu?
Non. Complètement. Et puis là, tu... Pas besoin de dire tout le
con.
Reste.
Con, ouais, juste con. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, des suprémacistes qui étaient contre les Blancs et contre les Noirs et con tout court. Et donc, eux, ils voulaient absolument pas l'intégration des personnes de couleur noire dans le reste de la société américaine. Et ils étaient pro-esclavagisme, contre l'égalitarisme.
Des gens du Sud.
Ouais, ouais, des cons du Sud. Et ça raconte justement l'histoire d'une famille spécifique qui était impliquée dans le mouvement du Black Panther Party, qui était c'est un mouvement assez éphémère qui a duré environ 2 ans, qui était relativement extrémiste, mais selon mon humble opinion, un extrémisme très très justifié considérant l'extrémisme des suprémacistes blancs. Donc c'est il essayait de faire des coups d'État, il essayait de faire changer les choses. Et certains d'entre eux faisaient des actions qui peuvent sembler vraiment simples, mais qui en même temps sont extrêmement effrontées et qui n'étaient pas encouragées par l'apport des autres Noirs. Donc, par exemple, on voit dans Premier Tome, à un moment donné, un homme qui est père de famille, qui va dans un bar avec un de ses amis, et dans un café, en fait, avec un de ses amis, et ce café-là est un café où ils disent qu'ils ne servent pas les Noirs. Et lui, il décide d'y aller quand même, mais c'est contre la loi de ne pas servir les Noirs parce que officiellement, il n'y a plus d'esclavagisme, ils sont considérés comme égaux, c'est juste qu'il y a des gens qui s'y opposent. Donc, le simple fait d'aller dans un café comme ça, c'est une énorme provocation, alors que la seule chose qui est revendiquée par cet homme-là, au final, c'est d'être servi en tant qu'être humain, car il est un être humain. Et il y a beaucoup d'injustices comme ça, certaines plus extrêmes que d'autres qui sont présentées. Et c'est vraiment au travers d'une ligne directrice qui tourne autour d'une famille qui était très impliquée dans ce mouvement-là. Maintenant que je vous ai parlé de l'histoire un peu, je vais vous parler du dessin aussi. Les deux choses qui m'ont attiré dans cette BD-là, c'est principalement le titre, parce que je trouvais que ça punch vraiment beaucoup, « Motherfucker ». Ensuite, la couverture est entièrement rouge et noir. Encore une fois, ça punch vraiment beaucoup, ça attire l'œil. Et quand on ouvre la BD, c'est un dessin noir et blanc, qui est franchement très bien fait. J'ai vraiment trippé tout de suite sur le dessin. J'ai vraiment aimé comment c'est placé. C'est dans un style assez réaliste. C'est un style un peu comics américain, en fait. Moi, ça, c'est un style qui tend un peu vers le comics américain, mais le fait que ce soit en noir et blanc, ça vient changer beaucoup l'apparence que ça a. Et c'est un dessin un peu plus artistique que ce qu'on retrouve en général. Le dessin, en fait, me fait penser peut-être un tout petit peu au dessin de Michael, justement, dans Giant. Mm-hmm. Un peu un style un peu dans le même genre, mais cette fois-ci en noir et blanc. Donc, moi, je vous conseille vraiment de le lire. Ça fait ouvrir les yeux un peu pour ceux qui connaissent pas beaucoup l'histoire des États-Unis à cette époque-là. Et c'est au travers d'une histoire, en même temps, une ligne directrice qui est vraiment intéressante plutôt que de faire juste un point historique général. J'ai trouvé la façon dont c'est présenté super intéressante.
Et si je peux rajouter un mot, parce que moi je les ai déjà lus les deux.
Oui, mon cher.
Le tome 2 va... Le tome 1 illustre énormément la violence des Blancs, même parfois passive, envers les Afro-Américains. Le tome 2 illustre plus la rébellion justement du mouvement Black Panther, parce que c'est à la fin qui va commencer à rentrer vraiment dans le mouvement et pas juste être passif et être un peu actif. Et on va se rendre compte que finalement le c'était limite du terrorisme aux États-Unis, mais c'est jamais allé vraiment au-delà de ce que les Blancs faisaient subir aux Noirs à ce moment-là. Donc c'est assez rigolo de voir ce petit décalage entre la violence des Blancs et la violence des Noirs qui n'est pas la même, mais il y en a une qui est pire que l'autre.
T'as un drôle de sens d'humour.
Et non, mais je trouve ça vraiment drôle de le mettre. C'est ça qui fait réagir, en fait. Et je vous conseille dans la même veine d'aller voir alors il est plus au cinéma, c'était l'an dernier qu'il est sorti, The Hate You Give, La haine qu'on donne, qui est un film beaucoup plus contemporain sur justement ce que vivent encore les Noirs et certains qui utilisent les règles des Black Panthers, parce qu'il y a 10 règles pour, pour justement jamais être violent envers un blanc parce que tu risques de te faire tirer dessus. Et voilà, ça montre, ça met ça dans un contexte beaucoup, beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporain, et on voit que ça n'a pas toujours changé comme ça aurait dû en plus de 50 ans. Ça fait 50-60 ans que Martin Luther King a fait son discours, et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore tant changé.
Les points en question, on a-tu le temps?
Oui, vas-y.
Parce que justement, en quatrième de couverture, il y en a cinq, les cinq autres sont sur le deuxième tome, puis je n'ai pas avec moi, mais c'est « Nous voulons la liberté ». Nous voulons le pouvoir de déterminer le destin de notre peuple noir. Nous voulons le plein emploi pour notre peuple. Nous voulons que le peuple noir ne soit plus volé par les capitalistes. Nous voulons des logements décents, dignes. Nous voulons une éducation pour notre peuple qui expose la véritable nature de cette société américaine décadente. Nous voulons une éducation qui nous enseigne notre véritable histoire et notre rôle dans la société d'aujourd'hui.
Alors les points 6, nous voulons que les hommes noirs soient exemptés du service militaire. Le 7, nous voulons un arrêt immédiat de la brutalité policière et des meurtres de noirs. Le 8, nous voulons la liberté pour tous les hommes noirs détenus dans les prisons fédérales d'État, de comté et de ville. Le 9, nous voulons que les noirs, lorsqu'ils sont soumis à un procès, soient jugés par un jury constitué de leur père ou de personnes issues de leur communauté noire, comme défini dans la Constitution des États-Unis. Et le point 10, nous voulons des terres, du pain, des logements, l'éducation, des habits, la justice et la paix.
En gros, voulons être traités comme des êtres humains égaux aux autres.
Comme des blancs.
Ouais, c'est ça.
Et j'en profite rapidement pour abonder dans ce sens-là. Si vous voulez des choses intéressantes et bien documentées sur l'histoire du combat pour les droits civiques du temps de la ségrégation, c'est une émission qui est diffusée sur France Inter, qui s'appelle Affaires Sensibles, et qui reparlait de l'affaire de Little Rock, où il y a eu 9 lycéens noirs qui ont été les premiers admis dans un lycée pour faire leurs études supérieures. Et ils racontent l'histoire de ces 9 lycéens et du combat qu'ils ont vécu avec un point de vue qui est mis à jour avec la situation actuelle de chacun de ces 9 protagonistes. Et j'ai trouvé cette émission ultra bien documentée et qui rappelle vraiment bien c'était quoi les enjeux et la problématique politique, parce qu'il rappelle bien aussi l'opposition entre la partie fédérale, c'est-à-dire vraiment l'État, et le président des États-Unis qui avait dû intervenir, mais pour des raisons qui ne sont pas exactement les bonnes. Et ils ont vraiment un bel éclairage sur la politique et tout ce qui se trame derrière tout ça. Donc je vous conseille Affaires Sensibles. C'est l'émission du 16 octobre 2019, Little Rock, 9 lycéens noirs contre la ségrégation.
Nice.
Eh bien, sur ce, on va devoir partir en autopromo, un peu de musique, et on va revenir après avec encore d'autres choses. À tout de suite.
Dans 7 jours exactement, l'air aura pris le goût de l'eau. Mon sang fera comme au printemps font les rivières et les ruisseaux. Dans une semaine, le pied du ciel, je déposerai mes trésors. Septième jour, plus que les grands feux du retour. J'espère l'arrivée de l'hiver, je m'y lancerai tout entière. Dans 7 jours exactement, dans 7 jours exactement, dans 7 jours exactement. Qui mord les joues fera la fête loin de nous.
ancienne, mes mains étaient loin des tiennes. Sur un calendrier de sel, je verse l'avancée du temps. Le vent me donnera mon ciel dans une semaine exactement. Dans sept jours exactement, je compte en
encore et à nouveau de retour sur CFAK 88.3 FM, les premiers de la bande avec les chroniques des frères Acter. Et on vient d'écouter 7 jours exactement d'Evelyn Brochu, notre album CFAK, nouveauté française de la francophone de la semaine. Olivier ?
Bon, mais il nous reste le temps de chroniquer une petite bande dessinée.
Il nous reste largement ce temps-là.
Eh bien, je vais chroniquer une bande dessinée qui est aussi mon coup de cœur, un des trucs les plus fous que j'ai lu dans, le dernier mois.
J'ai un mail.
Merci, merci. C'est moi-même qui m'ai envoyé un message. Je vais vous faire le pic.
Très bien.
Mais pas avec la voix de Robert. Mais j'avais envie de dire pic avec la voix de Robert.
Je suis vraiment content.
C'est quand même génial. Ok, ça commence. Donc ça s'appelle Les Égarés de Dejima. C'est la moindre des choses de vous dire. C'est aux éditions Sarbacane. C'est de Nicolas Wouters pour le scénario et de Michele Folletti pour le dessin. C'est complètement épatant, donc la couverture fait clairement penser à un contexte japonais ou japonisant. Et tu prends la première page et ça commence à Amsterdam en 1884. Et je fais un peu le contexte. C'est un jeune comte, il me semble, qui s'appelle Thierry de Hasselt.
Quelqu'un de l'aristocratie en tout cas.
Qui est aristocrate très clairement et qui adore la culture japonaise, qui ne vit que pour ça, le thé, il est complètement... Donc il veut absolument y aller, mais à ce moment-là, en Hollande, en tout cas à Amsterdam, bien, il y a une révolte qui gronde et il se retrouve à devoir finalement s'embarquer sur un bateau pour aller au Japon. Il est comme passager clandestin. Je vais passer les détails qui entourent son voyage comme passager clandestin, mais il se trouve qu'il va réussir à arriver au Japon, dans un port qui s'appelle Dejima. Il va se retrouver...
près de Nagasaki.
Il va se retrouver emprisonné. Il faut savoir qu'à l'époque, je ne le savais pas, l'archipel nippon, à cette époque-là, ne tolérait pas la présence des étrangers.
Mais en fait, les Hollandais... S'il avait toute cette culture japonaise, etc., c'est que 200 ans avant, ils étaient présents au Japon et dans les années 1800, ils ont dit hop, maintenant vous dégagez les Occidentaux.
Ah oui, non, ça a été très clair. Et il arrive finalement à s'échapper. Il est secouru par un ronin qui s'appelle le Setsudan et qui va l'emmener dans une.
Un ronin,
une
tu peux
course.
Juste dire ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
Non, mais tu te rappelles de ce que c'est
un ronin ? Moi, je sais ce que c'est. C'est un samouraï qui n'a plus de maître.
Exactement. C'est ça que je voulais entendre. Je pouvais le dire, mais c'est bien. Et en fait, il part avec ce Setsudan, donc ce ronin, dans une espèce de fuite, de course continue. Et c'est ça que j'ai trouvé totalement épatant dans ce livre. C'est que quand ça part, autant sa traversée de l'océan est mouvementé, mais sa fuite avec ce Setsudan, ça n'arrête pas. Le rythme, si on parlait musique, c'est pas des noirs, c'est plutôt des croches, voire des doubles croches. Ça n'arrête pas. Il y a toujours de l'action. Ils sont toujours pris dans des histoires qui ne marchent jamais. Ils se retrouvent toujours avec des nouveaux ennemis, avec des intrigues politiques et ainsi de suite. Et finalement, ça nous emmène dans une quête continue qui va confronter ce Hollandais à sa vision idéalisée du Japon versus qu'est-ce qui se passe réellement. Et il va avoir également le retour via ce ronin qui lui a vécu finalement quasiment le chemin inverse, puisqu'il a été samouraï de quelqu'un mais a perdu confiance et soutien. Et les histoires de ces deux personnages vont se retrouver, comment dire, intriguées, impliquées l'une dans l'autre, et ça crée un récit qui est d'une rare je sais pas. C'est pas de la folie, mais il y a une espèce de constante
c'est de la révolte. Moi je vois de la révolte.
Ouais,
ils sont en plus à l'intérieur d'un mouvement, enfin, ils vont être
amenés à être à l'intérieur, malgré eux, à l'intérieur d'un mouvement, les quelque chose pourpre, je ne me souviens plus, mais qui est un mouvement révolutionnaire qui voulait virer le Daimos, qui est le seigneur local, mm-hmm. parce qu'il y en a marre de, pas de l'empereur, parce qu'à l'époque, c'est pas de l'empereur, mais du shogun.
Mais c'est, en tout cas, c'est extrêmement dense, c'est ça qui est vraiment fou. Ouais. Lévi aime beaucoup un des personnages qui n'est pas le Setsudan. Mais c'est vraiment drôle parce qu'il y a une espèce de sans-arrêt dans cette BD, c'est rare d'avoir ce rythme aussi bien soutenu. Des fois c'est drôle, des fois c'est tragique. Il y a des mélanges de rire, de mort. J'ai rarement vu un tel mélange aussi finalement dynamique, même si pas toujours drôle. Et ça nous emmène aussi dans une réflexion finalement aussi sur la vie. Qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi nos objectifs et on y arrive. Et comment on interagit les uns les autres là-dedans. Moi, je ne peux que conseiller ce truc-là. C'était enthousiasmant. Nicolas Wouters a fait pas mal de scénarios, mais Michele Folletti, c'est son premier album en tant que dessinateur. Et moi, je trouve que c'est vraiment une réussite, que ce soit en termes de dessin ou de colle de couleurs également. C'est totalement épatant. Donc, Les Égarés de Dejima, moi, c'est mon 5 étoiles du moment.
C'est une belle BD sur la désillusion.
Et c'est aux éditions Sarbacane.
Et oui, on a très bientôt fini, mais de toute façon, tu sais, je couperai les moments où Olivier a dit de la merde et puis ça ira très bien.
Bah là, il a quand même parlé beaucoup.
Ouais,
là.
Je sais, mais on est à 5 minutes, c'est bon. Y a, dans le choix graphique, il y a quelque chose qui est vraiment extra. Enfin, moi, qui m'a directement touché. Si vous regardez la mer, etc., vous allez voir la vague de Kuzai directement. Il y a des petits trucs fractales, etc. Toutes les couleurs, c'est repris sur des étampes japonaises. Enfin, c'est. Il y a un style graphique, un gros parti pris à aller chercher du dessin traditionnel japonais. Les personnages, eux, en sont complètement différents de cette façon de dessiner. Ils ressemblent plus parfois à certains mangas un petit peu subversifs. J'ai plus les noms des auteurs, mais on en a déjà parlé il y a de ça un mois, des auteurs qui dessinent un petit peu bizarrement leurs personnages. En tout cas pas dans les normes classiques du manga. Donc voilà, il y a un parti pris pour des auteurs européens de faire quelque chose qui va piocher dans le graphisme japonais que moi j'ai trouvé vraiment cool.
Ouais, mais vous l'avez compris, c'est vraiment audacieux, jubilatoire et redoutable comme lecture.
Je conseille aussi.
Le 5 étoiles.
Pour ça moi. A l'air cool.
Ouais.
Là, soit on a des coups de cœur, sinon il y a quelque chose dont il faut absolument qu'on parle avant de partir. C'est qu'on a un tirage de Halloween à faire.
Ah ben oui.
Mais oui, on a un tirage de Halloween.
Mais oui.
Parce qu'on a décidé d'avoir de temps en temps des petits cadeaux pour vous si vous nous écoutez. On va vous mettre ça sur la page Facebook avec le résumé des BD. Et...
Mais en gros, c'est les tomes 1 à 8 de la série de manga Bakuman.
Qui est une bonne série, je ne l'ai pas lu.
Vraiment cool. Ben, voilà. J'ai pas lu au complet, là, mais Max, il se les a achetés personnellement. Je crois que toute la série, ou en tout cas tous ceux parus en français.
C'est ça, je crois.
Puis moi, j'ai lu les 3 premiers, je crois, à date. Puis c'est vraiment sympathique. Cool. On l'a chroniqué une bonne année.
Une bonne année. C'est sur l'écriture du manga, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça. C'est deux jeunes étudiants qui veulent devenir mangaka et qui travaillent là-dessus. On voit leur cheminement et c'est la qualité du dessin de ce manga-là. Nous a abasourdi et sinon l'histoire est vraiment intéressante alors qu'on s'attendait à rien de ça au départ. C'est très cool.
Ouais, et je précise que ce qui est intéressant dans ces 8 tomes que Maxime vous propose de gagner, c'est que Maxime ayant renversé son café dessus, ça permet d'avoir une double utilisation puisqu'évidemment on peut le lire, mais si on trempe les feuilles dans de l'eau chaude, on peut avoir du café, donc c'est extrêmement intéressant.
Ça, c'était une blague.
C'était une blague, il n'y a pas de café dessus. Voilà.
C'est ça, donc si vous voulez avoir une chance de gagner, ben, vous allez devoir aller sur notre page Facebook, aimer la page, aimer la publication et la partager.
Voilà,
le classique du concours Facebook. Voilà.
Et c'est ça.
Ouais.
Mais sur ce, je pense qu'on peut se quitter. On a eu un coup de cœur pour la semaine, sauf si Lévi, t'en as un là comme ça que tu veux balancer.
Ah
là.
Non, ça me va. Ça
non,
me
ça
va.
Te va
bon, bah... On dit aux gens de se brosser les dents, puis c'est tout.
Bah, brossez-vous les dents et à dans 2 semaines.